Vous écoutez France Culture.
Et tout de suite, nous retrouvons Jean Lebrun.
Sur les docks. La série de trois émissions que nous proposons cette semaine s'inscrit en contrepoint du plan cancer lancé par le président de la République au début de ce mois. Nicolas Sarkozy a voulu qu'il consolide les acquis du premier plan daté 2003 et signé Jacques Chirac. Effort financier malgré les déficits records, meilleure prise en compte des inégalités sociales et géographiques, pilotage de la recherche à partir de 5 pôles d'excellence. Le président a évidemment aussi valorisé le rôle des médecins. Or, les cancérologues ne sont pas assez nombreux et au train où vont les choses, les généralistes vont bientôt finir par faire défaut. Comme d'autre part, le métier d'infirmier évolue vers le haut, certains établissements imaginent de leur faire une place bien plus grande dans le dialogue avec le patient. Arriverait chez l'infirmier un rôle nouveau, plus de conversations, davantage d'explications. Dans ce premier documentaire, Irène Emelianenko s'est rendue au Kremlin-Bicêtre auprès d'un infirmier qui tient le rôle d'annoncier, pour reprendre le vocabulaire de Paul Claudel, ou, s'il faut citer aussi Guillaume Apollinaire, « Mais riez, riez de moi, homme de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. »
Alors attention, vous prenez pas le pied dans le film. Oui. Voilà. Donc monsieur, on ne s'était pas rencontrés. J'avais vu votre épouse dans le service de médecine interne quand nous étions hospitalisés. Et donc on s'était rencontrés, on avait discuté un petit peu toutes les deux. Et puis donc on a dit qu'on se revoyait aujourd'hui. Pour reparler un petit peu de votre maladie. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter un petit peu tous les deux, de reparler ensemble?
C'est-à-dire, ma maladie, je la prends sur moi maintenant. Je sais que j'ai le cancer du côlon.
On assume.
Il faut le prendre sur soi, maintenant on attend.
Vous avez réussi à en parler tous les deux?
Oui, tous les deux.
Il m'aide beaucoup. Je fais mon petit train-train quand même, hein, j'essaie de ne pas être à mollo.
Le retour à la maison s'est bien passé?
Très bien. On m'a placé le badge jeudi.
Vous avez le porte-à-quatre, oui, très bien.
Depuis jeudi.
Et donc là, du coup, on avait dit qu'on se revoyait aujourd'hui pour parler un petit peu du traitement. Donc, en médecine interne, on vous avait expliqué que donc, vous avez un cancer du côlon. Ce cancer ne peut pas être opéré pour plusieurs raisons et notamment par le fait qu'on a trouvé au niveau du foie des taches aussi qui correspondent à des métastases qui viennent de votre cancer du côlon. Donc c'est pour cette raison que le traitement pour lequel on avait opté est un traitement par chimiothérapie, puisqu'il permet de traiter à la fois votre cancer du côlon et à la fois les métastases qui sont au niveau du foie. Est-ce que vous avez un petit peu des questions?
Le jour où on vous dit, vous malade de vos familles, il y a un cancer, pouf, vous recevez le cancer dans la figure. Cette annonce, elle est trop brutale. Vous ne pouvez pas la faire non brutale. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous avez un petit truc au rein, ce petit truc au rein, c'est un truc assez grave, c'est une tumeur, peut-être que c'est un cancer, c'est un cancer. Et les gens, ils entendent cancer, puis ils craquent. Donc ils ont compris. Le problème, c'est qu'une fois que vous leur avez dit ça, il faut être derrière eux. Il ne faut pas les jeter dans la nature comme ça. Et faire quelque chose. C'est humain, ça va de soi, mais c'est aussi les mettre en situation de lutter contre la maladie, d'avoir de meilleurs résultats. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que les gens soient plus confiants, il s'agit aussi qu'ils se préparent à se battre. Et pour se battre, il faut avoir confiance, il faut être en forme, il faut avoir de l'énergie, et cette énergie pour la recruter, ben il faut être en forme, il ne faut pas avoir une information aussi brutale que cela. Et donc, ça veut dire qu'il faut la faire graduellement, cette formation. Et il faut la partager avec d'autres gens qui vont prendre le relais pour aider les gens.
Automne 2009, nous sommes au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne. Dans nos têtes, les 820 patients auxquels on annonce chaque jour un cancer en France. Dans nos têtes, tous ces proches qui un jour ont basculé dans le monde où se prononcent les mots carcinome basocellulaire, lymphome malin, Hodgkin ou encore myélome multiple. Ces proches dont la vie quotidienne rime avec rendez-vous de chimiothérapie, contrôle, bilan, radiothérapie, angoisse, fatigue. Dans nos têtes enfin, l'interrogation devant la création très singulière du poste d'infirmier d'annonce en oncologie. Après avoir repris la longue histoire du cancer, son évocation dans des papyrus égyptiens datant de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, le nom de carcinome donné par Hippocrate à des tumeurs malignes, le nom grec d'oncos que Galien utilisa pour qualifier les tumeurs, nous étions prêts avec ces mots de cancérologie, carcinologie ou le contemporain oncologie à rencontrer le professeur Gérard Benoît, un des premiers à insuffler ce qui allait permettre la création du poste d'infirmier d'annonce en oncologie au Kremlin-Bicêtre.
Il y a eu un plan cancer numéro 1 et des moyens pour le plan cancer numéro 1 donnés à la science publique pour les hôpitaux. Et ce plan cancer, on pouvait s'en servir un peu comme on voulait. Et j'ai souhaité faire l'effort sur l'humain. Pourquoi ? Parce que j'ai participé aux états généraux du cancer et Kouchner avait organisé des réunions débat dans toute la France où on était face à des malades, des associations, des familles et en fin de compte, on se faisait allumer devant lui. Et on se faisait allumer devant lui et on a, ces états généraux, en tout cas pour les gens comme moi, ont permis de comprendre que il fallait dire la vérité aux malades, qu'on ne pouvait pas la dire en deux minutes et qu'on ne pouvait pas la dire facilement seul. Et que pour dire cette vérité aux malades, parce que c'est quand ils savent la vérité qu'ils peuvent se battre véritablement contre l'ennemi qui est la maladie, qu'ils peuvent vaincre, il faut faire l'annonce en plusieurs temps. Un premier temps où on leur dit les choses, puis un deuxième temps où on précise la situation, les inconvénients, les avantages du traitement, les dangers du traitement, les difficultés du traitement, la joie qu'on peut dire de ce traitement. Et donc ici, on a donc des infirmières dans l'hôpital qui se sont spécialisées dans ce domaine, qui sont soit des infirmières d'un service comme le nôtre, parce qu'on a une activité importante, elles sont à plusieurs sur ce coup, soit un infirmier comme Christophe qui va de service en service, où le débit est un peu moins important. Dans les deux cas, il s'agit clairement de prendre conscience qu'on n'a plus assez de temps pour s'occuper assez bien des malades et qu'il faut qu'on s'appuie sur les autres acteurs de notre profession qui sont les infirmières et qui connaissent les choses aussi bien que nous.
Est-ce que vous avez un petit peu des questions sur le traitement, sur...
Par où est-il, on dit qu'elle va être fatiguée.
Là, en ce moment, vous vous sentez fatiguée
un
ou ça va
peu, Un petit peu. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, ça va, je fais mon petit train-train, il faut que je m'assoie.
D'accord.
J'ai les jambes un peu ramollo.
D'accord. Donc, pour la chimiothérapie, on avait discuté un peu toutes les deux déjà.
Oui.
La chimiothérapie a des effets secondaires, mmh. hein. Déjà, elle va se passer tous les 15 jours par l'intermédiaire donc, du boîtier,
oui, hein,
du porte-à-quatre
oui,
qui a été mis
jours.
En place.
Tous les 15,
tous les 15 jours.
Jours
oui. Tous les 15 jours, par l'intermédiaire du boîtier oui, qui a été mis en place.
Oui.
Et donc, les effets secondaires sont effectivement, comme vous le soulignez, la fatigue.
Oui.
C'est-à-dire que vous aurez besoin de faire une sieste mm-hmm. hein, les jours de chimiothérapie bon, et puis les 2-3 jours
bien
qui suivent.
Bien sûr.
Des nausées aussi.
Oui. Hein.
Alors, les nausées, nausées et vomissements, on a maintenant tout un tas de médicaments qui nous permettent de contrôler au mieux ces effets secondaires. Donc, surtout, ce qu'il faut, c'est nous le dire.
Oui. Hein.
De plus spécifique à la chimiothérapie que vous allez avoir, vous vous souvenez, on avait un petit peu discuté, vous m'aviez dit que vous aviez des craintes de perdre vos cheveux.
Oui, ben enfin. Ouais.
Donc, je vous avais expliqué qu'on a le choix entre deux produits qui Donc l'un qui fait plus perdre les cheveux que l'autre, et l'autre qui donne des fourmis dans les, dans les doigts.
Ben, je vous avais dit, c'est à vous de juger. Moi,
deux sont équivalents.
Moi, c'est l'efficace du traitement, hein, pour me soigner.
Les deux sont équivalents, donc je pense que comme vous avez cette crainte quand même de perdre les cheveux, comme les deux sont équivalents, je vous propose de commencer par le produit qui donne les fourmis.
Hein. D'accord.
Donc, vous aurez ça comme effet secondaire. Vous aurez des fourmis dans les doigts, des mains et des pieds. Hein, des picotements qui sont déclenchés par le froid.
Oui.
C'est-à-dire que, monsieur, quand madame va revenir de sa chimiothérapie, il faudra que ce soit vous qui alliez chercher les produits dans le frigidaire ou mettre les mains sous l'eau froide.
D'accord.
D'accord. En cas de souci, donc, Christophe Kurt est notre infirmier coordinateur. Il va être un petit peu votre référent, votre pivot entre vous et nous, et le service, et l'organisation, et votre maladie, et votre traitement. D'accord ?
D'accord.
Donc, vous allez avoir, on va vous remettre un dossier, hein, avec tous les numéros de téléphone, et notamment celui de Christophe. D'accord ?
Voilà. Je vous laisse mes coordonnées.
Laisse ouvert parce que j'ai toujours besoin. Donc,
Christophe Kurt, nous sommes devant la porte 12, Paul Broca, au Kremlin-Bicêtre.
Voilà. Donc, un CHU qui fait de la cancérologie, qui n'a pas de service d'oncologie, mais qui a des spécialistes d'organes qui pratiquent en fait l'oncologie. Voilà.
Vous, Christophe Kurt, vous êtes infirmier d'annonce en oncologie.
Voilà.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
En règle générale, c'est un infirmier qui intervient, alors, en général après l'annonce faite par le médecin au patient, et qui est chargé, en fait, de reprendre cette annonce délivrée par le médecin. Ce rôle, je pense qu'il est primordial dans le sens où il sert aussi à dépister les besoins fondamentaux de la personne. À savoir, parfois, il est nécessaire de faire intervenir certains interlocuteurs, des partenaires de soins, comme l'équipe mobile prise en charge de la douleur, le service diététique, un psychologue, pour le mieux-être du patient.
Alors, je crois que pour mieux comprendre tout ce que vous venez de nous dire, l'idéal, c'est de rentrer dans cet hôpital et puis de vous suivre dans votre journée de travail, au fond.
Voilà, exactement.
Je m'appelle Thierry, j'ai 53 ans, j'habite dans le Val-de-Marne, et voilà, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, après qu'il m'ait découvert une tumeur au niveau des voies biliaires. J'étais devenu tout jaune, du jour au lendemain. Donc j'ai passé pas mal d'examens, au début on croyait que c'était une hépatite, et puis bon, on m'a passé un scanner, et ils ont découvert une dilatation des voies biliaires, et c'était une tumeur, voilà.
Thierry, on ne vous a pas annoncé de but en blanc, monsieur, vous avez un cancer, tu imagines ?
C'est-à-dire, non, on m'a pas dit le mot cancer, on m'a dit, Thierry, vous avez un embylome, mais on ne sait pas encore si c'est un malin ou un bénin. Donc, pour moi, c'était un peu de l'hébreu. Après, elle m'a dit que c'était une tumeur maligne. Et donc, voilà, sur le coup, on m'a dit que c'est cancéreux. Bon, j'ai accepté. Et après, en rentrant chez moi, j'ai pensé à plein de choses. J'ai dit cancer égale mort. Vous voyez, tout de suite, surtout à 53 ans, comme dirait l'autre, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est de partir trop jeune. Voilà. Parce que mort, on va tous mourir un jour. Mais c'est de partir à 53 ans, ça me ferait souhait. Parce que, bon, bah, j'ai deux enfants, j'aimerais bien être grand-père et j'aimerais bien voir grandir mes enfants, mes petits-enfants, quoi, c'est normal.
Vous avez rencontré Christophe Kurt à quel moment dans ce parcours ? La première rencontre.
La première rencontre de Christophe, il est venu me voir dans ma chambre, il s'est présenté et il a commencé à me parler de la chimio. Ah ! Alors, autant que quand on m'a dit que j'avais un cancer, j'ai bien réagi. Mais quand Christophe m'a dit « on va vous faire de la chimio », pour moi, j'ai craqué. J'ai craqué parce que pour moi, la chimio, ça voulait dire fin de vie. Et honnêtement, on est que des hommes, je me suis mis à pleurer. Et c'est là encore qu'il m'a réconforté, qu'il m'a expliqué, non, bah, c'est pas parce qu'on vous fait de la chimio que vous êtes condamné. Et puis, bon, bah, je fais de la chimio et je pète la forme. Je pète la forme, les médecins même comprennent pas. Je grossis au lieu de maigrir, je perds pas l'appétit, j'ai toujours faim. Et puis j'ai une pêche d'enfer, parce que je trouve que le moral est vachement important. J'en rigole même. J'ai comme ça, en parlant de la grippa, j'ai dit, ça me ferait suer de mourir d'une grippa alors que je viens d'avoir un cancer. Hein, franchement, c'est... Vous voyez, il faut en rigoler, il faut prendre les choses du bon côté. Et ça, c'est fait vachement.
Et vous pensez que la présence de Christophe apporte quelque chose de différent d'avoir, par exemple, un médecin généraliste qui aurait très bien pu vous accompagner, vous expliquer les mêmes choses, non ?
Oui, parce que je pense que je ne me serais pas confié à un médecin généraliste comme je me suis confié à Christophe. Parce que Christophe, il connaît ma vie. Il connaît tout, enfin tout, non pas tout quand même, mais enfin disons, il en connaît, on va dire, la moitié. Il connaît mes enfants, ma fille, mon fils, il connaît ce que j'ai fait. Il connaît ma passion qui est l'ornithologie, c'est-à-dire je suis éleveur de canaris amateurs. Voilà, j'avais besoin de me confier à lui, il m'a apporté énormément de choses. Et même là, on reste en contact. Quand j'ai une séance de chimio, il vient me voir, on discute, je dis des bêtises comme d'habitude, parce que bon, bah, j'aime bien blaguer, et puis... Comme je vous disais tout à l'heure, il a fait énormément de choses pour moi et je n'oublierai jamais. Je crois que je ne faut pas oublier ça. C'est un garçon formidable et il a un métier très dur, je tire mon chapeau. Voilà. Ok. On se dit soit demain ou alors soit mardi. J'ai ma dernière chimio ouais. Mardi. C'est la dernière.
Demain,
non, c'est mardi prochain. Mardi prochain, c'est tous les 15 jours. Ah ouais. C'est la dernière chimio.
Ouais.
Ah, tu viens me voir pour la dernière. Hein. On va faire la fête après. On va faire le champagne.
Sinon, donc, là, vous habitez...
Ah oui, je vis pas loin.
Oui, je vis, d'accord. Vous avez des enfants ?
Non.
Non, d'accord. Dans la famille, est-ce qu'il y a déjà eu des cancers ?
Non, non, on m'a posé toutes ces questions
d'accord.
Déjà. Non,
pas
non.
De cancer. C'est la première fois. Vous avez travaillé ?
Oui, dans la coiffure.
D'accord. Vous étiez coiffeuse ?
Teinturière.
Teinturière, d'accord. Je suis curieuse. Tenez, je vous redonne ça.
Oui.
Voilà. Alors. Donc, le traitement... se passe la première fois en hospitalisation sur 48 heures. Après, ce sera en hôpital de jour. Parce qu'en fait, vous allez voir, l'infirmière va vous perfuser plusieurs produits. Et donc, ça va durer à peu près 3 heures. Hein. Et puis, ensuite, elle va mettre en place une petite... comme une petite bouteille hein, qui s'appelle un diffuseur, c'est la forme d'une petite bouteille. Et cette bouteille donc délivre la chimiothérapie restante sur 46 heures. C'est une auto-perfusion. Et cette bouteille, vous la mettez dans une sacoche. C'est très simple. Enfin, vous avez ça comme une banane sur vous. Vous dormez avec, vous la posez sur votre table de nuit ou dans votre lit à côté. Enfin, donc pendant 46 heures, vous avez... cette bouteille qui délivre le produit.
Elle ne risque pas de s'ouvrir.
Non. Peut-être tu pourras lui montrer.
Oui, il vous montrera après.
Il vous montrera du coup un exemplaire pour que vous fassiez une idée.
Oui.
Donc, ce que je vous propose de faire quand même pour la première chimiothérapie, c'est de faire ce traitement en hospitalisation. Les fois suivantes, vous pourrez repartir chez vous à la maison avec cette bouteille. Mais pour la première fois, je pense que c'est mieux,
sur surveillance,
voilà, pour vous-même, pour savoir un petit peu comment vous allez réagir à la chimio, par sécurité.
Bien sûr. On me donnera l'adresse, l'endroit.
Ah, ça va se passer au cinquième étage, là, ici, dans le même bâtiment. Hein?
Brocard.
Voilà, exactement. D'accord. Donc, dans le service de gastro-entérologie.
Et pour le rendez-vous de la chimio, vous me recontacterez.
Oui, on va vous appeler pour vous donner
le rendez-vous.
Je pense que ce sera mardi prochain, hein, dans une semaine.
je vous repose des questions, mais ça
ne
rentre pas trop dans la tête
Monsieur,
encore.
C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui.
Oui.
C'est pour ça que vous, vous avez Christophe aussi pour vous accompagner, pour vous tout vous réexpliquer. Parce que là, aujourd'hui, je vous donne une somme d'informations.
Oui.
On n'a pas fait les papiers encore, vous allez voir. Donc, il ne faut pas hésiter.
Nous avons assisté à un entretien avec, entre le docteur Bidot et un couple, une femme qui savait déjà qu'elle avait un cancer et qui allait commencer sa première chimiothérapie, radiothérapie. Et l'entretien se faisait entre le médecin et le mari et la femme. C'est une pratique usuelle ici au Kremlin-Bicêtre.
C'est obligé. C'est obligé qu'il y ait le couple devant soi, parce qu'ils vont partir tous les deux. Et quand la femme va dire « il m'a dit ça », le mari lui dit oui, t'as dit ça, mais j'ai entendu ça. Ils vont partager les mots. Quand vous êtes le malade, que vous entendez un discours de 10 minutes, vous retenez deux mots, trois mots, cancer, cancer du côlon, et puis le reste, c'est complètement dans la brume, vous n'entendez plus rien.
Alors, est-ce que c'est une légende, professeur Benoît, que dans cette maladie, le cancer, le moral est très important? C'est un des ingrédients du soin.
Le moral est très important, il vous fait gagner des années de survie. Le fait de pouvoir marcher, manger, vous balader, faire l'amour, etc., ça vous fait vivre longtemps. Vous prenez des cobayes, vous greffez une tumeur à un cobaye, et vous laissez Madame Cobaye à côté. Mais vous mettez une vitre entre les deux, sans trou. Alors au début, vous mettez Madame Cobaye, et vous laissez tout seul, il va mourir assez rapidement. Vous mettez Madame Cobaye, il va vivre plus longtemps. Vous faites des trous dans la vitre, ils vont se sentir, s'ils sniffent, etc. Il va vivre encore plus longtemps. Puis vous retirez la vitre, et il va vivre encore plus longtemps. Puis vous lui mettez une roue pour qu'il fasse pédale sur la roue, il va vivre encore plus longtemps. Et donc l'activité physique, l'alimentation, la tendresse, c'est très important.
Je suis Mariella Marquez, donc je suis infirmière depuis 1992 et j'exerce actuellement dans le service ORL ophtalmologie-stomatologie, ce qui est déjà plusieurs services, depuis 14 ans. Et moi j'ai voulu faire cette consultation d'annonce parce que dans le CHU de Bicêtre, je trouvais que la prise en charge n'était pas du tout adéquate. Évidemment, le cancer ORL particulièrement, ça atteint les organes de la parole. Des fois, ils ont du mal à respirer. Hein, le larynx, quand on arrive plus loin des tumeurs du larynx, on arrive avec une dyspnée, des problèmes pour respirer. Donc déjà, pour parler, on a déjà un peu plus de mal. Et souvent, et c'est des patients qu'on doit, prendre plus de temps à questionner et à écouter leurs réponses. Hein, c'est pas l'ORL quand vous arrivez comme ça vous pouvez pas questionner un patient en deux minutes. Et c'est souvent ça la difficulté des patients ORL vis-à-vis des médecins qui sont toujours en train de courir après le temps, mais les patients ORL ont besoin de temps pour parler. Bien sûr, alors moi ça fait 14 ans que je travaille en ORL, je commence à comprendre des patients dont les autres personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils disent, parce que soit ils ont une tumeur de la langue ou une difficulté à parler, mais moi je comprends maintenant ce qu'ils veulent dire. Et je me suis dit que c'était pas possible aussi d'annoncer des chirurgies mutilantes. En ORL, c'est mutilant, on enlève le larynx. Donc souvent, les gens ont une trachéostomie. Alors, pour le commun des mortels, une trachéostomie, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Mais si je vous dis que vous avez vous ne pouvez plus parler comme avant et vous avez un trou au niveau du cou à vie qui induit que vous ne pouvez plus vous baigner, que vous ne pouvez plus chanter, que vous ne pouvez plus faire beaucoup de choses, ni téléphoner, ça induit un isolement complètement social et familial. Et les médecins ont tendance à dire on vous opérera, on vous guérira, vous pourrez manger, après, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils oublient que la majeure partie de notre temps, on ne fait pas qu'à manger. C'est souvent, les familles se demandaient ce qu'on leur avait fait. Malgré qu'on vous donne l'information, c'est-à-dire le médecin avait dit on va faire ça, on va vous l'opérer, on va enlever le larynx, vous allez avoir une canule, vous allez avoir des redons, des perfusions, il ne pourra plus parler, vous allez parler avec l'œsophage. comme ça, je vous donne l'information comme ça. Bon, bah, très bien, docteur, vous allez le guérir et tout. Sauf qu'en compliqué en post-opératoire et au fil du temps, on vous dit, mais quand est-ce qu'il parlera? Et là, vous dites, mais il ne parlera pas comme avant. Ça a minimum 6 mois d'orthophonie avec une voix œsophagienne. Et c'est là qu'est venue cette idée où je dis, c'est pas possible d'annoncer le cancer et le traitement sans attendre la réponse du patient et lui dire qu'il a le choix du traitement. Il y a des malades qui m'ont dit non, je veux pas y aller, je veux pas me faire opérer. Et en fait, ils ne disaient rien et ils ne se présentaient pas aux consultations médicales. Et donc moi, mon rôle, c'était de me dire, il faut que quelqu'un soit là et qu'il soit un peu le porte-parole du patient quand il n'arrive pas à dire ce qu'il veut vraiment. Moi, j'ai eu un patient qui a refusé à 75 ans de se faire subir cette grosse intervention de la laryngectomie totale, puisqu'on lui a dit « Oui, bah, vous pourrez manger comme avant, vous n'aurez plus de difficultés. » Et lui a répondu « J'assiste à des conférences depuis des années. Je suis quelqu'un de littéraire, je lis, j'écoute. Et moi, manger n'est pas le but de ma vie. Vous m'enlevez la voix, vous m'enlevez la vie. Et je pense qu'à 75 ans, j'ai le droit de savoir et de savoir et de vouloir mourir comme je veux. » Et malgré que certains chirurgiens ne comprennent toujours pas pourquoi, mais lui, le patient, on l'a écouté et il a vécu ses derniers jours comme il l'entendait.
Que médecin, docteur Besson, est-ce que vous avez perçu un changement à partir du moment où ce système d'annonce a été mis en place?
Pour le médecin lui-même, c'est un changement, puisque ça crée une espèce de délégation de fonctions. Pour certains, c'est accompagné de craintes, puisque ça pourrait faire perdre un peu du colloque singulier qu'il y a entre le patient et le médecin, en déléguant une partie à quelqu'un d'autre qu'on ne contrôle plus et on n'assiste pas à cette consultation paramédicale. Donc, dans les entretiens qu'on mène dans une étude dont je m'occupe sur l'impact de ce dispositif d'annonce, on s'est aperçu que pour certains, c'était un facteur de crainte pour certains médecins.
On a clairement l'impression, docteur Besson, que ce poste d'infirmier coordonnateur d'annonce en oncologie est vital. Les patients le disent, les médecins le disent. En même temps, c'est bien que l'hôpital a de moins en moins de moyens. Est-ce qu'on a un budget suffisant en France pour développer réellement ce poste dans tous les hôpitaux?
Mais là, on est face à une grande contradiction de la politique de santé, c'est qu'on nous demande de faire plus avec moins. C'est-à-dire qu'on nous a obligés, si on veut prendre en charge des patients atteints de cancer, on est obligé de mettre en place le plan cancer et obligé de faire le dispositif d'annonce. Donc chacun s'est organisé avec les moyens du bord pour faire ça, en prenant par exemple en urologie une infirmière du service qui, pendant que les autres continuent à faire leurs soins, elle va en consultation faire la consultation d'annonce. Donc ça impose des réorganisations pour chacun. Bien sûr, les moyens ne suivent pas. Il y a eu des moyens attribués, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient été attribués avec beaucoup d'équité. Et en tout cas, ils n'ont pas été attribués à tous les centres, ça c'est évident. Nous ici, on a eu peu de moyens et donc je vous disais, on s'est organisé chacun comme on a pu pour faire face. Et je crois qu'il y a un nouveau plan cancer qui se prépare, qui demande encore plus d'investissement, notamment sur la sortie du patient. Bien sûr, c'est essentiel d'accompagner la sortie du patient, mais le problème des moyens est vraiment dramatique. C'est par exemple pour la psychologue d'annonce. Elle est en congé maternité actuellement et il nous a été extrêmement difficile de recruter quelqu'un pour la remplacer alors que justement elle avait pris une place dans certains services qui était très importante. Donc on se retrouve face à des contradictions qui sont assez terribles.
Donc moi je suis l'infirmier de liaison, d'accord. Je suis le coordinateur cancer au niveau du pôle d'Arles.
D'accord.
Moi je suis votre référent entre vous et l'hôpital.
D'accord.
Et moi, si j'ai quoi que ce soit,
j'ai affaire à vous.
Voilà.
Voilà.
Et moi, je transmets à Madame Thirobido ou les.
Ouais, d'accord. Que ce soit n'importe quand, je peux vous avoir au téléphone.
Voilà, voilà. Donc,
sans vous déranger, parce que des fois.
C'est mon travail. C'est mon travail. Donc voilà, je sers à ça.
Bon, d'accord. C'est
je suis à votre disposition, aussi bien pour Madame que pour vous.
Bien enregistré. Voilà.
Parce que c'est une épreuve pour vous aussi. Mmh.
Combien tu pèses?
42. Votre poids habituel, c'est combien, madame?
C'était...
45.
Non, un peu plus. C'était... J'avais un peu trop grossi. Le docteur me dit que c'était un peu... Je faisais les 50.
D'accord. Non, quand même, oui. J'ai bien perdu les kilos. Habituel.
Je sais que ça fait un choc quand on apprend ça. Puis après, bon, il faut combattre. Je dis à ma femme, c'est une lutte qu'il faut faire. Il faut, c'est le moral qui gagne sur le mal.
C'est important que le moral suive. C'est vrai que ça. Le moral, c'est important. Ceci dit, si jamais il y a des soucis de morale, si vous avez l'impression de plus avoir la force et le moral qui suit,
oui.
Il y a une psychologue sur l'hôpital
oui.
qui peut.
Je suis pas très.
Pas
sachez qu'elle est là.
Oui, oui,
cas, voilà. Je ne suis pas portée là-dessus, je pense sur moi-même et j'essaie de monter moi les choses.
Alors.
Bon, au moins, téléphonez-moi si besoin.
Oui,
si...
D'accord.
Quel âge avez-vous, Mélanie?
J'ai 27 ans.
Alors c'est rare, on s'est beaucoup promené dans le service, on a rencontré beaucoup de personnes âgées.
Mm-hmm.
Et vous êtes une toute jeune fille et le cancer a croisé votre vie.
Mm-mm. On m'appelle une vénarde. Effectivement, oui. Mais en réalité, si vous restez un peu plus longtemps à l'hôpital, vous apercevez que ça ne touche pas uniquement les personnes âgées. Et que vous voyez des personnes de tous les âges et aussi des enfants.
Alors l'histoire a commencé comment, Mélanie?
L'histoire a commencé fin d'année dernière, quand je me suis aperçue que j'avais une petite boule au bas du cou. Et en fin de compte, j'ai eu énormément de chance, parce que quand on n'est pas confronté au cancer, on n'y pense pas nécessairement dès le départ. Et ma belle-sœur, qui est médecin, est venue passer Noël chez nous. Et en lui en parlant de façon anecdotique, elle m'a envoyée immédiatement chez mon médecin traitant. Et puis là, s'enchaînent les examens... le rendez-vous à l'hôpital avec le docteur Besson en l'occurrence, et puis l'annonce début janvier.
Juste avant l'annonce, vous étiez dans quel état d'esprit?
Compte tenu, un mois ça paraît court, ça paraît long, ça dépend des circonstances. Donc, en l'occurrence, ça m'a paru très long, et de faire des examens, des scanners, des échographies, des ponctions, des biopsies. On commence à petit à petit rentrer dans le monde de l'hôpital en fin de compte. Et je sais qu'en arrivant à l'hôpital, je me doutais fortement de ce qu'on allait m'annoncer.
Comment s'est déroulé cet entretien? Comment le médecin vous a annoncé?
Le médecin est arrivé, m'a serré la main. Et c'est vrai que là, j'ai compris. Après, j'étais avec mon mari. Qui, lui, a compris quand il est rentré dans la salle et qu'il a vu Christophe. Et en se disant, voilà, il y a deux personnes dans la salle, c'est pas normal, on va nous dire quelque chose de désagréable. Mais en fin de compte, tout le langage non-verbal du médecin suffisait à comprendre le problème.
Alors, après ce premier moment, on vous a proposé un protocole. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en sortant du bureau, donc, je suis restée une heure avec Christophe, dans ce bureau-là, d'ailleurs. Et puis, en fin de compte, la décision a été prise de m'envoyer à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, qui est à 5 minutes d'ici, pour la bonne et simple raison qu'il possède des casques réfrigérants, et ce qui permet de conserver les cheveux pendant les traitements par chimiothérapie. Donc je suis partie pour l'IGR, pour mon protocole, oui, effectivement, qui est un protocole expérimental, sans radiothérapie. L'hôpital, quand vous n'y êtes pas confronté, d'autant plus quand on est assez jeune et qu'on n'a pris que uniquement de l'aspirine jusqu'à aujourd'hui, vous vous retrouvez plongé dans un monde parallèle dont vous ne soupçonniez pas l'existence. et un monde finalement de soins, très froid, très objectif et qui laisse peu de place au psychologique. Christophe donne un visage à l'hôpital et ça c'est ultra important. Et l'aspect psychologique d'acceptation, de compréhension, de facilitation également de tout ce qui est administratif est ultra important. Et j'étais extrêmement surprise quand j'ai découvert que le métier de Christophe n'existait pas dans les autres hôpitaux.
Vous avez pris votre téléphone, c'est sur la petite table ?
D'accord.
Hop, je prends vos papiers.
La consultation d'infirmière, elle a été mise en avant pour moi parce que dans la population loco-régionale, il y a beaucoup de précarité. Des gens qui ont très peu de revenus, qui vivent des fois sans couverture sociale ou parfois sans revenus parce qu'ils ne savent pas faire les papiers pour la retraite, pour les CME complémentaires. Et conclusion, ils ne venaient pas à certains examens fin d'externe parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire ou dans d'autres établissements privés parce qu'ils n'avaient pas les moyens et même de subvenir à leurs besoins. Et je travaille, je fais beaucoup de la coordination avec les assistants sociaux pour essayer que ces patients soient pris en charge correctement et qu'il n'y ait pas de facture de l'hôpital et des huissiers qui leur courent après, je peux dire ça parce que ça est déjà arrivé, ou des patients par exemple n'ont pas de mutuelle. Et j'ai eu des découvertes, des gens qui avaient des dettes de forfait journalier. 16 euros par jour multiplié par 60 jours, vous imaginez combien ça peut faire. Et ils ont des huissiers parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et ils reçoivent la lettre comme quoi l'huissier va passer. Et beaucoup de gens sont érémistes ou chômeurs. Moi, j'ai vu des gens qui vivent avec 20 euros par jour pour survivre le mois. Alors, quand on vous opère d'une laryngectomie totale, le foulard de protection, quand on veut cacher, pour filtrer l'air et pour qu'on veut cacher son trou, n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et ça revient à peu près une quinzaine d'euros. Et il y a d'autres pinces et d'autres matériels qu'on a besoin. Et c'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Et avec les assistantes sociales, on a fait souvent appel à la Ligue ou à des organismes pour nous aider, à nous aider à payer ou à les dettes de ces patients avant qu'ils meurent. Ou d'appeler parfois un huissier et de lui dire qu'il doit venir, il a une date pour venir voir le patient. Qui est chez moi, qui est dans un état critique, et de lui dire que si elle pouvait faire quelque chose, de retarder sa visite et pour que le patient puisse finir sa fin de vie en paix. Donc je l'ai fait, ça. Et ça, c'est important. Parce que je dis toujours, les patients, même s'ils ont une maladie grave, mais s'ils ont quelque chose dans leur vie qu'ils doivent régler, par exemple le chien, et si on vous lui dit qu'il doit rester hospitalisé pendant 3 semaines, 1 mois dans mon service, il est clair et évident que pour eux, si personne ne peut s'occuper du chien, ils ne viendront pas. Donc ça a été difficile et maintenant c'est quand même, je dis aux médecins, vous faites attention quoi. Donc eux, quand ils voient des patients, ils m'appellent parce qu'ils se disent, j'ai pas le temps, et c'est vrai que c'est pas leur travail, hein, forcément, et l'assistant social n'est pas forcément libre, et donc je les vois, et on discute, et c'est pas forcément en leur disant, passez-moi votre carte vitale, est-ce que vous avez la carte vitale, c'est pas ça, hein. C'est, bonjour, je suis Marie, voilà, je dois m'occuper de vous, avez-vous des difficultés pour aller aux examens, est-ce que vous avez de la famille, comment vivez-vous, et c'est souvent ça a été une de mes priorités.
Christophe, nous sommes à côté du poste de soins et nous allons nous rendre où maintenant ?
Donc là, auprès d'un patient à qui on a annoncé donc un cancer de type métastatique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que au niveau du cancer initial, il y a une migration des cellules cancéreuses à un autre endroit. Et en l'occurrence, il y en a au niveau du foie, il y a des cellules cancéreuses au niveau du foie. Et le primitif, on ne le connaît pas. Donc on l'a pris en charge, si vous voulez, un moment où le cancer s'était généralisé. Voilà. Donc,
Vous allez le voir dans quel cadre là ?
Là, dans le cadre de son suivi et d'une évaluation douleur par rapport à la prise en charge de sa douleur. Et on lui a mis en place avant ce week-end, vendredi soir, une PCA, une pompe à morphine, pour calmer en fait ses douleurs de type nociceptif dues à la maladie. Donc on va voir Marie qui va évaluer sa douleur après la mise en place d'une PCA.
Non, ça me dérange pas. Je vais me rassurer.
Ça va ?
Marie, je suis une infirmière de l'équipe douleur. Je vous réveille ?
Je vais essayer d'éteindre la télé.
Santé depuis vendredi.
Pas terrible.
Pas terrible.
Pas terrible, pas terrible.
Comment ça se passe?
Je vais vous le dire tout à l'heure.
Ouais. C'est juste à côté.
Au-dessus, en dessous, froid.
Comment ça s'est passé le week-end depuis vendredi soir? Au niveau des douleurs.
Oh, les douleurs, je sais plus, j'arrive plus à les citer. Ça me merde, ça part, ça revient pas, ça.
Si on revient sur la douleur que vous décriviez vendredi, vous aviez une douleur abdominale.
Alors, vendredi, j'avais une douleur abdominale vendredi.
Oui. Qui était prédominante à droite, si je me souviens bien.
Oui.
Vous me l'aviez décrite comme une sirène, c'est-à-dire qu'elle partait, elle revenait, avec une intensité très importante.
Une sirène sans bruit.
Une sirène juste pour l'intensité. Comment est-ce que ça a évolué votre douleur au cours du week-end?
Un peu en mal quand même.
Ouais. Alors ce qu'on a pris le parti de faire vendredi avec les médecins, c'est que vous aviez le patch qui diffusait en continu. On a remplacé le patch par la pompe qui diffuse en continu et avec laquelle en plus vous pouvez faire des bolus quand vous en avez besoin. Ouais. Est-ce que ça vous a semblé efficace les bolus que vous pouviez faire?
Oui.
Vous êtes fatigué là. Actuellement, en ce moment là, maintenant, si je vous demande d'évaluer votre douleur.
2-3.
2-3. Vous la situez où?
Ah, toujours pareil.
Toujours pareil. Donc au niveau abdominal,
ouais.
Plus à droite qu'à gauche.
Ouais. Ok. Ça se situe au niveau du foie. Et pourtant, j'avais pas eu mal le foie depuis très longtemps. Hein? Si j'avais plein du foie.
Est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça déchire? Est-ce que ça tire? Ouais,
c'est lancinant, c'est... Je ne saurais pas vous dire.
C'est difficile, hein. Oui. Je vais regarder votre pompe. Je vais regarder les consommations que vous avez pendant le week-end.
Michel, nous sortons d'une chambre où un patient répondait à vos questions sur la douleur. Auprès de lui, il y avait aussi Christophe Kurt, infirmier d'annonce en oncologie. Il y avait sa fille. Et vous posiez beaucoup de questions relatives à la douleur.
Oui, je suis infirmière dans une équipe mobile douleur et soins palliatifs. Donc, nous, on est appelés auprès des patients douloureux. dans le cadre soit de prise en charge classique, soit de prise en charge du soin palliatif. Donc c'est un patient qu'on avait déjà vu vendredi, qui a déjà toute une histoire et qu'on a déjà suivi, qui a eu des épisodes douloureux difficiles et qu'on avait du mal à gérer avec les traitements, avec par ailleurs beaucoup d'effets secondaires avec les traitements qu'on lui avait administrés. Donc on y va tout doucement, et donc dans l'évaluation qu'on a faite tout à l'heure, on se rend compte que c'est un monsieur qui est un petit peu confus, un petit peu sédaté par les traitements qu'il a actuellement. Et donc c'est pour ça que vous n'allez pas tout diffuser de l'entretien qu'on a pu faire avec lui.
Alors, ce qui est important et ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est de comprendre comment, dans cette petite équipe, est intégré l'infirmier d'annonce et de coordination en oncologie. Comment est-ce que vous travaillez avec un infirmier ou une infirmière, du reste, coordonnateur d'annonce?
On travaille avec les infirmiers d'annonce qui prennent en charge les patients qui sont atteints d'un cancer depuis leur annonce et au cours de leur évolution dans la maladie, au cours de leur traitement, et qui sont donc à même de repérer les douleurs précocement et de repérer des symptômes et de nous signaler quand ces patients sont considérés comme étant hors ressources thérapeutiques. Et donc à ce moment-là, on dit qu'ils sont en soins palliatifs. On aide à organiser ce transfert en unité de soins palliatifs.
On part pour 2 mois de traitement, ça veut dire 4 cures.
Oui. Hein,
et puis on fait un scanner et une prise de sang pour vérifier l'efficacité du traitement.
D'accord.
Là on a 3 possibilités. Soit votre maladie est stable, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut quand même continuer le traitement, c'est encourageant.
Oui.
Soit la maladie a diminué. Donc évidemment on continue, c'est encore plus encourageant. Mm-hmm. Soit il y a une progression, une augmentation des lésions, et à ce moment-là, il faut changer de traitement.
Voilà, d'accord. Tout ça, c'est à suivre.
Et là, d'après vous, la maladie a été plus intense ou... On ne sait pas, on ne peut pas savoir.
On ne peut jamais répondre à cette question.
Non. C'est difficile.
Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure,
c'est
un combat. Là.
Voilà, c'est
deux,
ça. Ouais.
Vous êtes dans l'épreuve de la maladie, madame.
Oui.
Donc, on fait tout pour. On n'a pas de boule de cristal. On va vous.
On va tenter
de vous donner toutes les armes pour combattre et vous aider à surmonter cette épreuve et vous accompagner en tout cas.
Oui, croisons les doigts.
Voilà. D'accord.
D'accord.
Je vous prescris le traitement. Là.
Stéphanie Audureau, qu'est-ce qui vous a conduit ici dans cet hôpital du Kremlin-Bicêtre la première fois?
Alors malheureusement, c'était des circonstances pas très heureuses. Donc c'était la maladie de ma maman qui a été atteinte d'un cancer colorectal. Voilà, on a découvert ça dans des circonstances un peu dramatiques et brutales puisqu'elle a fait une hémorragie. On ne savait pas du tout qu'elle était malade et on a donc découvert sa maladie à un stade très très tardif, puisqu'il y avait des métastases au niveau du foie, donc ce qui est déjà très très peu encourageant pour la suite. C'est vrai qu'il y a un moment où les choses suivaient leur cours. Ma mère a eu une rémission pendant quelques mois. On avait l'impression qu'elle était quasiment plus malade. Ça a été assez, une espèce de moment de grâce comme ça, qui a duré 3 ou 4 mois, où vraiment... Puis malheureusement, la maladie étant très très avancée, c'était déjà, on arrivait à un stade compliqué à gérer, qui était au-delà. On n'était plus, on était déjà plus dans le curatif, hein, on était déjà dans le palliatif. Donc, moi, on avait un peu du mal à se le dire, mais. Et puis, curieusement, le souvenir des informations, on va dire, cruciales qui étaient communiquées, surtout, ou peut-être que je les entendais différemment, par Christophe, quoi. C'était...
Et Christophe Kurt, donc on comprend bien qu'infirmier d'annonce, c'est au début, être là, maintenant dans le système actuel, quand le médecin annonce un cancer, mais du coup, ce métier continue jusqu'au bout, en fait.
Ah, mais ça a été, jusqu'au bout. Je dirais que c'est un des aspects essentiels, l'annonce. Bon, en l'occurrence, nous, l'annonce avait été faite auparavant, mais je dirais que ça n'a rien changé, puisque effectivement, les annonces, il y en a tout au long de la... C'est pas juste le premier jour, il y en a tout au long de l'évolution de la maladie, que ce soit en positif, en négatif, il y a quand même un accompagnement. C'est un réel soutien. Et juste, donc jusqu'au bout, puisque bon, l'issue a été effectivement, on l'a compris, a été un peu malheureuse. Donc on a eu énormément de mal à se résoudre à partir de l'hôpital. Ma mère était, comment dire, parce que c'était tellement devenu un lieu tellement familier, un lieu tellement presque rassurant, quitter toute l'équipe pour partir aux soins palliatifs, même si on nous avait vraiment assuré que ce serait mieux, ça a été un arrachement, hein, ce départ. Bon, finalement, c'est vrai qu'après, on a compris que c'était mieux pour quelqu'un qui est en fin de vie, que voilà, c'était, on avait vraiment atteint les limites, hein, de l'hôpital. Et c'était très, très dur, ce départ. Voilà. Et donc, ma maman est décédée 10 jours après avoir quitté l'hôpital. Voilà.
Quand on est arrivé dans votre... On dit à quoi, un bureau de consultation? Vous aviez le sourire aux lèvres et vous nous avez dit c'est bien, je suis avec un patient pour qui tout va bien. Il y a aussi les cas où ça va mal. Comment est-ce que vous, en tant que médecin, vous pouvez intégrer ces fins de parcours, ces fins de vie?
La fin de parcours, vous êtes toujours là. Quand vous êtes fin de parcours, vous êtes là. Vos enfants, votre mari, vous sont avec vous, ils en profitent. Fin de parcours, c'est toujours la vie. Cette vie, elle est belle. Et donc, pour moi, tant que les gens sont là et qu'ils peuvent communiquer avec les autres, c'est un moment super. Et donc, je ne vis pas ça comme étant pénible. Je vis ça comme un combat qu'il faut mener, où il faut qu'on aide les malades, mais pas comme quelque chose de désastreux. Les malades comprennent et les malades profitent de ce temps. Les familles profitent de ce temps. Enfin, il y en a beaucoup qui savent le faire. C'est un temps très précieux, et donc il ne faut pas du tout croire que ce moment est désastreux. Il y a une équipe, comme dans tous les hôpitaux, de soins palliatifs et de douleurs. Les deux étant séparés, mais souvent l'un est peut-être lié à l'autre. Et les gens souffrent beaucoup moins qu'avant. Il y en a toujours qui souffrent, mais il y a beaucoup moins de gens qu'avant qui souffrent. Et donc on peut prendre à nouveau plus de temps pour les mains. Plus de temps pour rester chez soi, pour... parler en famille, des équipes mobiles de soins palliatifs se déplacent maintenant à domicile. On peut aller chez les gens, on peut s'occuper d'eux à la maison. Et donc on reste plus longtemps avec les siens, et donc c'est du temps précieux.
Est-ce que ça va?
Ça va. C'est marqué.
Les infirmières.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, tout a été dit là.
Bon, écoutez, d'accord. Merci.
Merci, docteur. Vous êtes douce et aimable et ça met en confiance. C'est vrai, hein. C'est vrai, ça va en confiance. Vous avez des gens brutales qui vous racontent sec, on est intimidé.
Bon, allez.
Mais bon.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Prenez soin d'elle. D'accord.
Oui, merci.
Au revoir. C'était infirmier d'annonce en oncologie, avec les docteurs Anne Thirobido, Caroline Besson, Gérard Benoît, les infirmières Marie-Michel, Marie-Hélène Marquez, les patients, leurs familles et Christophe Kurt. Merci aussi à Monsieur et Madame Rouleau. Coordination à la Maison de la Radio, Christine Gage, Laure-Hélène Plancher. Au Kremlin Bicêtre, Florence Penet. Prise de son, Patrice Klein, Olivier Berotte, Étienne Leroy. Un documentaire de François Test et Irène Omelianenko pour Sur les Docs.
C'était le premier volet d'une série de 3 documentaires sur le cancer que vous pouvez commenter, réécouter sur notre site accessible via celui de France Culture. Demain, le cancer du sein.